Vous écoutez On lit pour vous.
Envie de sucre? Selon une étude, les pâtisseries pourraient être un meilleur choix que les sodas. Un texte de Fleur Brosseau, paru le 23 avril 2026 dans Science et Vie. Les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité mondiale, sont souvent évitables par des modifications du mode de vie, notamment alimentaire. Une étude suédoise récente s'intéresse à l'impact des sucres ajoutés sur ces maladies, révélant des différences significatives selon leurs sources. Les maladies cardiovasculaires constituent la principale cause de décès au niveau mondial. La plupart de ces maladies sont évitables en agissant sur certains facteurs de risque liés au mode de vie. L'alimentation en fait partie. Mais dans quelle mesure la consommation de sucre contribue-t-elle au risque cardiovasculaire? Une équipe de chercheurs suédois s'est penchée sur la question. Ils ont constaté que l'effet des sucres ajoutés sur la santé diffère totalement selon leurs sources. Saccharose, sirop de glucose fructose, aspartame, dextrose, sirop de mélasse, concentré de jus de fruits. Les sucres ajoutés sont partout et se présentent sous plusieurs formes. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSES, A-N-S-E-S, plus de trois quarts des produits contiennent au moins un ingrédient sucrant ou vecteur de goût sucré. Or, une consommation élevée de sucre peut entraîner à court terme des caries dentaires. À plus long terme, l'excès de sucre augmente le risque de développer un surpoids, voire une obésité et des maladies métaboliques chroniques connexes, diabète. Les recommandations relatives à l'apport en sucre varient d'un organisme de santé publique à l'autre dans le monde. L'ANSES recommande aux adultes et adolescents de ne pas dépasser 100 grammes de sucre par jour. L'Organisation mondiale de la santé recommande, quant à elle, de ramener l'apport quotidien en sucre libre, tous les sucres ajoutés, ainsi que les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops, les jus de fruits et les concentrés de jus de fruits, à moins de 10 % de la ration énergétique totale chez l'adulte et l'enfant. Il serait encore meilleur pour la santé de réduire cet apport à moins de 5 %, soit à 25 grammes environ. Des preuves rares et peu concluantes. Plusieurs études ont révélé une relation dose-réponse entre la consommation de sucre ajouté et libre et l'obésité et la dyslipidémie. D'autres ont trouvé des associations entre la consommation de boissons sucrées et l'obésité, le diabète de type 2, l'hypertension et l'incidence des maladies cardiovasculaires. En revanche, les preuves concernant la consommation de sucre et le risque de maladies cardiovasculaires sont rares et peu concluantes. En outre, le peu d'études sur le sujet ne comportait qu'une seule évaluation du régime alimentaire au départ. On a ainsi considéré que cette évaluation était représentative du régime alimentaire des participants au fil du temps. L'objectif de cette nouvelle étude était donc d'examiner les éventuelles associations entre la consommation de sucre ajouté et le risque de plusieurs types de maladies cardiovasculaires, accident vasculaire cérébral ischémique, accident vasculaire cérébral hémorragique, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, sténose aortique, fibrillation auriculaire et anévrisme de l'aorte abdominale. La population étudiée, issue de deux grandes études de cohorte suédoises, englobait 69 705 participants, dont 47,2% de femmes, âgées de 60 ans en moyenne. L'IMC moyen était de 25,3 kg par mètre carré. Le régime alimentaire a été évalué à deux moments, en 1997 et 2009, pour la majorité des participants. Au départ, la consommation moyenne de sucre ajouté était de 9,1 % de l'apport énergétique total. En 2009, elle était de 6,8 %. Les plus grands consommateurs de sucre ajouté avaient tendance à être des hommes, avec des niveaux d'exercice plus élevés et un niveau d'éducation plus faible que les plus petits consommateurs de sucre ajouté. un risque d'anévrisme de l'aorte abdominale majoré de 31 %. Au cours de la période de suivi, 25 739 participants ont reçu un diagnostic d'au moins une maladie cardiovasculaire. Pour étudier les associations entre l'apport en sucre et l'incidence des maladies, l'équipe a établi trois modèles. Le modèle principal tenait compte de l'ensemble des paramètres, à savoir l'âge, le sexe, l'apport énergétique total, les facteurs liés au mode de vie, l'IMC et les facteurs alimentaires. Dans ce modèle, les chercheurs ont trouvé des preuves d'association linéaire positive entre la consommation de sucre ajouté et le risque d'accident vasculaire cérébral ischémique et d'anévrisme de l'aorte abdominale. Pour des apports en sucre ajouté excessifs supérieurs à 20 %, le risque d'anévrisme de l'aorte abdominale augmentait de 31 % par rapport à la consommation la plus faible, égale ou plus grand que 5 %. Pour des apports en sucre ajouté supérieurs à 15 à 20 %, le risque d'accident vasculaire cérébral ischémique augmentait de 9 %. Les chercheurs n'ont trouvé aucune association entre la consommation de sucre et le risque d'accident vasculaire cérébral hémorragique. Il souligne par ailleurs qu'une consommation très faible, proche de zéro, en sucre correspondait au risque maximal pour chaque maladie. Cela suggère, au passage, de ne pas totalement bannir le sucre de son alimentation, car cela ne semble pas bénéfique. Les risques les plus faibles correspondaient à un apport en sucre faible à modéré, plus grand que 5 à 7,5 %. Un risque porté par les boissons sucrées. Les chercheurs ont ensuite analysé les résultats en distinguant les différentes sources de sucre ajouté. Ils ont observé qu'une consommation élevée de boissons sucrées, plus de 8 portions par semaine, augmentait le risque d'AVC ischémique, plus 19 %. Elle augmente également le risque d'insuffisance cardiaque, plus 18 %. De fibrillation auriculaire, plus 11 % et d'anévrisme de l'aorte abdominale, plus 31 %. À l'inverse, la consommation de quelques friandises, pâtisseries, tendait à réduire le risque de toutes les maladies considérées. Les consommateurs de deux portions ou moins par semaine présentaient les risques les plus élevés. Ce contraste surprenant souligne l'importance de tenir compte non seulement de la quantité de sucre consommé, mais aussi de sa source et de son contexte, relève Suzanne Janzi, chercheuse à l'Université Lund et première auteure de l'étude. Les sucres liquides que l'on trouve dans les boissons sucrées procurent généralement moins de satiété que les formes solides, c'est-à-dire qu'ils donnent l'impression d'être moins rassasiés, ce qui peut conduire à une surconsommation. Le contexte joue également un rôle. Les friandises sont souvent consommées dans un cadre social ou lors d'occasions spéciales, alors que les boissons sucrées peuvent être consommées plus régulièrement, ajoute la chercheuse. La consommation de garnitures sucrées, comme le miel par exemple, semblait elle aussi réduire le risque de certaines maladies, comme l'insuffisance cardiaque, moins 10 % et la sténose aortique, moins 15 à moins 20 % selon les quantités consommées, par rapport à la consommation la plus faible, égale ou plus grand que deux portions par semaine. Le risque d'anévrisme de l'aorte abdominale augmentait quant à lui de 34 % en cas de consommation excessive, plus grand que 28 portions par semaine. Des mécanismes biologiques qui restent à éclaircir. En résumé, les associations varient en fonction de la maladie considérée et de la source de sucre ajouté. Il apparaît que les boissons sucrées sont plus néfastes pour la santé cardiovasculaire que toute autre forme de sucre. Consommer beaucoup de ces boissons augmenterait de manière significative le risque de 4 maladies cardiovasculaires. Parallèlement, les personnes consommant occasionnellement des friandises étaient en meilleure santé que celles qui n'en mangeaient pas du tout. Cela pourrait refléter des comportements alimentaires sous-jacents. Les personnes qui consomment très peu de sucre pourraient avoir des régimes très restrictifs ou limiter le sucre en raison de problèmes de santé préexistants, pense Janzi. La recherche a soulevé plusieurs hypothèses pour expliquer les associations entre les sucres ajoutés et le risque de maladies cardiovasculaires. L'une d'elles repose sur le métabolisme particulier du fructose, un sucre ajouté courant. Le foie le convertit en glycérol 3-phosphate, qui sert de base à la synthèse des triglycérides. Ainsi, le taux de triglycérides augmente, entraînant un risque cardiovasculaire accru. Des travaux supplémentaires seront nécessaires pour comprendre comment les différents types de consommation de sucre impactent la santé. L'étude devra également être poursuivie auprès d'autres populations, car le régime alimentaire étudié ici est très spécifique. Nos résultats sont basés sur une population suédoise dont les habitudes alimentaires et les facteurs liés au mode de vie peuvent différer de ceux d'autres populations, a déclaré Janzi. La coutume sociale du fika, une pause café-pâtisserie, est en effet profondément ancrée dans la culture suédoise. Ainsi, les résultats peuvent ne pas être directement transposables à d'autres populations. En attendant, le fait de savoir qu'il existe des liens entre la consommation de sucre ajouté et le risque de maladies cardiovasculaires pourrait contribuer à l'élaboration de futures recommandations nutritionnelles. C'était envie de sucre? Selon une étude, les pâtisseries pourraient être un meilleur choix que les sodas. Un texte de Fleur Brosseau, paru le 23 avril 2026 dans Science et Vie.
Au nom des aînés, la parole retrouvée et libérée, de Marguerite Blais. Un texte de Suzanne Dansereau, paru le 30 mars 2026 dans Virage. La vieillesse est une richesse, fait valoir l'ancienne ministre Marguerite Blais. Mais, pour en profiter pleinement, le Québec doit revoir en profondeur sa façon de faire, à commencer par la création d'un véritable ministère des aînés qui s'occuperait non seulement des plus vulnérables, mais aussi de celles et ceux qui jouissent pleinement de leur autonomie. Rencontre avec une femme qui n'a toujours pas dit son dernier mot au nom des aînés. Quand elle a quitté définitivement la politique en 2022, Marguerite Blais était à plat. Blessée par le regard public et son incapacité à sauver des vies dans les CHSLD lors de la pandémie de la COVID-19, celle qui a été ministre responsable des aînés et des proches aidants durant cette période, souffrait d'une profonde dépression. Il lui a fallu 3 ans avant de s'en remettre. Elle s'est fait suivre médicalement, elle n'a pas honte de le dire, a pris de longues marches dans la forêt avec sa chienne Ruby, est devenue adepte de l'ikigai, un concept japonais signifiant « raison d'être ». Et elle a écrit un livre intitulé « Au nom des aînés » chez Libre Expression, en collaboration avec son ex-attaché politique Guillaume Nadon. La rédaction de ce livre a été une véritable thérapie pour moi, confie-t-elle à Virage. La pandémie avait complètement occulté les bonnes choses que j'avais accomplies en 12 ans de carrière à l'Assemblée nationale. Bien qu'on y apprenne qu'elle excellait à la danse à claquettes et au piano, Au nom des aînés se consacre à son parcours politique. Évidemment, il fait une grande place à son expérience des CHSLD avant et pendant la pandémie. Leur vétusté l'a fait pleurer, écrit-elle. Le livre donne aussi sa version des faits en lien avec les décisions prises par le gouvernement Legault et le ministère de la Santé dans la gestion de cette crise sanitaire au cours de laquelle, rappelons-le, pas moins de 5000 résidents de CHSLD sont décédés. défendre son héritage. D'abord élu sous la bannière du Parti libéral du Québec en 2007, qu'elle a quitté après avoir été écartée du cabinet de Philippe Couillard, puis avec la CAQ en 2018, cette ex-vedette de télé et de radio est allée en politique pour défendre la cause des aînés, et non par partisanerie ou envie du pouvoir, précise-t-elle. Et c'est tout un héritage politique qu'elle leur lègue. La loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes, c'est à elle qu'on la doit. Idem pour la loi visant à lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées et la décision de conventionner les CHSLD privés afin d'harmoniser les soins et les conditions de travail de leurs employés. Tour de Babel, centralisation, inertie. Mais la politique n'a pas été du gâteau pour Marguerite Blais. Son livre révèle divers incidents où elle a été sacrifiée, tenue à l'écart ou pas écoutée. Durant la pandémie, elle explique que les décisions d'interdire l'accès aux proches aidants dans les CHSLD, établissements dont elle avait la responsabilité, ainsi que d'y transférer des patients en provenance des hôpitaux ont été prises contre son gré. Elle avait les pieds et les mains liés, se désole-t-elle, la gestion étant partagée par le ministère de la Santé, dont l'approche était très hospitalo-centrique. Si l'auteur se justifie en disant qu'il fallait se rallier à l'équipe et se soumettre à l'autorité des médecins, elle critique durement le réseau de la santé qui, selon elle, coince la population dans une tour de Babel, où la communication se brouille dans les structures bureaucratiques. C'est un peu tout ça qui écœure le peuple, déplore-t-elle. Elle dénonce aussi les deux récentes réformes, celle de 2015 qui a créé les CI3S et les CIUS, trop lourd pour assurer une gestion fluide, et celle de Santé Québec. Au bout du compte, dit-elle, ce ne sont pas des structures que les gens veulent, mais un médecin de famille. Un ministère indépendant pour les aînés. Pour ce qui est de l'avenir du ministère des aînés, Marguerite Blais souhaite un changement de paradigme. Il faut détacher ce ministère de celui de la santé et lui donner son indépendance, avec un budget négocié directement avec le Trésor, et le dédier non seulement aux aînés vulnérables et aux proches aidants, mais aussi aux aînés actifs. Je n'aime pas le mot retraite. J'ai 75 ans, je paie des taxes et des impôts, je m'occupe de mes petits-enfants, j'ai des loisirs, je vais au restaurant. Je ne vis pas en retrait de la société. Je vis dedans. La vieillesse est positive, dit-elle, rappelant que seulement 2,3 % des aînés du Québec vivent en CHSLD. Selon elle, l'État doit impérativement s'adapter au vieillissement de la population, cette mutation profonde de notre société. Il faut plus de projets de logement et d'activités intergénérationnelles, de transports adaptés, de petites infrastructures dans les villes pour améliorer la vie de tous les jours. Des initiatives comme les municipalités amies des aînés, les MADA, et la gériatrie sociale, qui favorise le maintien à domicile, doivent aussi être élargies. Pour mieux soigner les vulnérables, l'ex-ministre fait valoir l'importance de renforcer les CLSC et d'accroître le soutien aux organismes communautaires. J'ai toujours travaillé avec les communautés avant de prendre des décisions. La politique, c'est être au service des autres. À la fin de l'échange, on pense à la préface que son amie Béatrice Picard a écrite pour Au nom des aînés, quelques semaines avant de mourir à l'âge vénérable de 96 ans. Ayez des projets, même petits. Habillez-vous pour le dîner. Riez quand vous en avez envie et osez aller vers les autres. La curiosité est le plus beau des secrets de la longévité. C'était, au nom des aînés, la parole retrouvée et libérée de Marguerite Blais, un texte de Suzanne Dansereau, paru le 30 mars 2026 dans Virage.
Enfant autiste non-verbaux, je rêve qu'il me dise maman un jour, un texte de Guillemette de Préval, paru le 11 mai 2026 dans Ombres et Lumières. Sandra est la mère de deux jeunes hommes autistes. L'aîné est non-verbal. Le second a fini par acquérir le langage. Elle retrace leur parcours de rééducation et ce qu'elle met en place pour faciliter la communication au quotidien. Son retard de langage, je l'ai vu assez vite chez mon fils aîné, Eddie. Mais sa pédiatre me disait de ne pas m'inquiéter. Après tout, on avait le temps. Cela me rassurait un temps, mais le réel me rattrapait vite. Je voyais bien la différence avec les autres enfants de son âge. Mon deuxième fils, Samy, a 11 mois d'écart avec son grand frère. Je l'observais beaucoup et j'ai vite vu qu'il avait aussi un retard. J'ai d'abord pensé au mimétisme. Un jour, un ami médecin est venu à la maison. Je lui ai partagé mes inquiétudes. Il m'a confirmé qu'il voyait aussi un problème. Il m'a donné une ordonnance pour faire un test auditif à l'hôpital qui s'est révélé positif. Ils m'ont réorienté vers cette même pédiatre que j'avais déjà consultée. Son verdict était sans appel. Avant 3 ans, on ne fait rien. Sa réponse ne me satisfaisait pas. Mon ami médecin a donc écrit une lettre à l'hôpital Robert-Debré pour faire un bilan. Il y avait un délai de 18 mois d'attente pour un rendez-vous avec un pédopsychiatre. Alors j'ai employé la méthode forte. J'ai décidé de me rendre à l'hôpital avec mes deux enfants. Je leur ai dit que je ne repartirai pas d'ici sans avoir de rendez-vous. J'ai attendu longtemps. Un mois après, j'ai obtenu un créneau avec un pédopsychiatre. Celui-ci a ausculté mes deux garçons. Le diagnostic est tombé. Les deux avaient un trouble du spectre autistique, TSA. Ce double diagnostic a été un soulagement. Mais que faire derrière? Eddie a commencé à avoir une orthophoniste à 2 ans et demi. Elle était formée à un système de communication augmentative. Cette même orthophoniste a pris très tôt mon deuxième fils. Mais sa condition était qu'il fallait que je me forme, car elle travaille en collaboration avec les parents. Elle ne me faisait rien espérer. Elle ne me garantissait pas qu'il parlerait un jour. Je me suis donc formée chez PEC France, spécialisée dans les troubles de l'apprentissage et de la communication. Leur méthode est d'utiliser des pictogrammes avec le mot écrit en dessous au cas où il deviendrait lecteur. Ce sont des échanges d'images, puis il s'agit d'augmenter les demandes et faire des phrases plus complexes. Par exemple, on commence par « chocolat », puis « je veux du chocolat », puis « je veux du chocolat blanc ». Samy a parlé au bout de 2 ans de formation et de rééducation. Il a été scolarisé à Saint-Dominique, une école qui utilise le PEC. Le cadre était parfait pour lui. Au départ, il a failli ne pas pouvoir y être scolarisé. Il était sur liste d'attente. Alors, pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai écrit au maire de Neuilly, puis au président de la République. J'ai passé une nuit entière à écrire. J'ai eu de la chance, car tout le monde a répondu à ma demande. Puis, un enfant s'est désisté et Samy a intégré cette classe. C'est là qu'il a développé le langage. Est-ce que mon aîné aurait pu parler, s'il avait bénéficié du même suivi? Peut-être que oui, mais on ne saura jamais. Pour Eddie, je me suis aussi formée aux outils de communication numérique avec un iPad et des applications. Eddie est plutôt calme, même s'il a des stéréotypies. Il aime tout ce qui est sensoriel. Il peut taper sur l'épaule de quelqu'un ou montrer du doigt. Il adore voir mes parents en visio, même s'il ne leur dit rien. La tablette numérique a permis de réduire ses frustrations. Et il était important qu'il se fasse comprendre. Même si on pense connaître son enfant par cœur, on ne peut pas totalement. Et puis, comment allait-il communiquer avec les autres sans moi? Je ne suis pas éternelle. Pour les émotions, en revanche, ça reste difficile. Il a du mal à exprimer quand il a mal. Sans moi ou l'aide d'un tiers, il ne sait pas dire où se situe la douleur. Mon rêve aussi, c'est qu'un jour, mon fils me dise « Maman ». C'était « Enfant autiste non-verbaux, je rêve qu'il me dise « Maman » un jour », un texte de Guillemette de Préval, paru le 11 mai 2026 dans « Ombres et Lumières ».